Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, l'antenne vous appartient, nous sommes vendredi, c'est donc la Libre Antenne, vous connaissez le principe, dans 30 minutes vous pourrez commenter tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité française, africaine, internationale, tous les sujets nous intéressent, aucun sujet n'est tabou, je le répète chaque semaine, mais c'est vrai, vous nous rejoignez ici à Paris, vous lancez le débat en direct, 33 9 693 693 70, il y a tout de même trois sujets qui dominent ce matin au standard, vous avez envie de parler de la campagne électorale en République démocratique du Congo, de réagir au procès de Laurent Gbagbo, la CPI va-t-elle accorder à l'ex-président ivoirien une liberté provisoire? Réponse très certainement dans la journée, mais le sujet ne vous laisse pas indifférent et vous êtes toujours aussi nombreux à souhaiter réagir à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations après le retrait de l'organisation au Cameroun. Voilà quelques-uns des sujets qui arrivent, mais tous les autres nous intéressent également, donc profitez-en, appelez-nous 33 9 693 693 70. Je vous rappelle que depuis hier, vous pouvez également nous envoyer vos commentaires et aussi vos questions sur un numéro WhatsApp. Donc notez-le, enregistrez-le, apprenez-le par cœur, mais enfin il est moins facile que le numéro du standard, donc enregistrez-le, 33 6 89 28 53 64, je répète, 33 6 89 28 53 64, soyez nombreux, rejoignez la communauté, appel sur l'actualité et faites passer l'information, évidemment, je compte sur vous, soyez nombreux, et vous êtes déjà nombreux, hein, nous envoyer des messages sur WhatsApp, visiblement, c'était une forte demande, des auditeurs, donc voilà, on répond à vos exigences. D'abord donc, avant la Libre Antenne, comme tous les matins, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Des questions pour commencer sur le second tour de l'élection présidentielle à Madagascar. Bonjour Kalilou.
Oui, bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Cotonou, au Bénin, nous vous écoutons.
Près de 700 000 électeurs n'ont pas encore reçu les cartes d'électeurs, alors que nous sommes à quelques jours du deuxième tour du scrutin. Mmh. Alors, comment est-ce que la CENI compte y remédier?
Ah, comment la commission électorale compte-t-elle remédier à ce problème, effectivement, d'autant que le scrutin se tiendra mercredi prochain. Bonjour Sarah Teto.
Salut.
Merci d'être avec nous, correspondante de RFI à Madagascar. Près de 700 000 électeurs n'ont toujours pas leur carte pour aller voter mercredi prochain. Ça représente tout de même 7% des électeurs. Avant de répondre précisément à la question de Kalilou, peut-être pouvez-vous nous rappeler comment on en est arrivé à une telle situation?
Oui, eh bien, c'est assez simple, c'est à cause d'une série de défaillances. Manque de sensibilisation de la part de l'institution, manque de temps pour imprimer puis distribuer les cartes dans tout le pays, manque de mobilisation aussi des citoyens qui ne sont pas venus les récupérer. Alors désormais, comment faire pour rectifier le tir? La CENI vient de promettre cette semaine qu'elle allait prendre toutes les mesures nécessaires pour que chaque électeur puisse jouir de ses droits pour ce second tour. Elle a déjà dépêché ses équipes dans certains des 119 districts du pays pour encourager les responsables étatiques à s'activer. Et cela, visiblement, a payé puisque dans certaines circonscriptions, la moitié des cartes restantes viennent d'être redistribuées. Enfin, la CENI vient de faire appel au ministère de l'Intérieur pour obtenir de l'aide. Alors, pourquoi ce ministère? Eh bien, parce qu'à Madagascar, les chefs de Fouktane, l'équivalent de chefs de quartier, sont les derniers intermédiaires de la chaîne de distribution des cartes électorales et ils sont directement sous la tutelle du ministère de l'Intérieur.
Ouais. Il faut tout de même relativiser Sarah Teto, relativiser la situation, car sans cette carte, un électeur pourra tout de même aller voter mercredi prochain.
Oui, tout à fait. C'est ce que la CENI a tenu à rappeler, puisque l'enjeu de ce vote, je le rappelle, c'est de mobiliser un maximum les électeurs pour éviter un taux d'abstention élevé comme au premier tour, où 46% des inscrits ne s'étaient pas déplacés. Alors du coup, si l'électeur n'a pas pu récupérer sa nouvelle carte d'électeur, son ancienne carte reste valable. Enfin, s'il n'a aucun de ces deux documents, en présentant sa carte d'identité, son passeport ou son permis de conduire, le citoyen pourra accéder au scrutin malgré tout, à condition, bien évidemment, je le rappelle, d'être inscrit sur la liste électorale.
Donc il suffit d'avoir sa carte d'identité, son passeport, son permis de conduire. Question peut-être un peu naïve, Sarah, quel est donc l'intérêt de cette carte électorale si elle peut être remplacée finalement par une autre pièce d'identité?
Eh bien, elle reste un document important pour le processus de vote dans la mesure où elle permet d'identifier le numéro de l'électeur sur la liste électorale, mais également de connaître le lieu et l'emplacement de son bureau de vote. Mmh. Et en plus de cela, la carte permet à son propriétaire de faire une réclamation au cas où des incidents seraient observés le jour J.
Et le jour J, c'est donc mercredi prochain. Kalilou, a-t-on répondu à votre question ?
Oui, bien, merci beaucoup.
Eh bien, bonne journée. On remercie surtout Sarah Teto, correspondante de RFI à Madagascar. 9h16 à Paris. Des questions maintenant sur cette affaire qui défraie la chronique au Sénégal. La corruption au sein de certaines brigades de la gendarmerie. Bonjour Souleymane.
Bonjour Juan.
Vous êtes sur place au Sénégal. Vous nous appelez de Bandoulou.
Oui, effectivement Juan.
Nous vous écoutons.
Au Sénégal, le général Moussa Fall a fait état de rackets organisés dans quelques brigades de gendarmerie tout en dénonçant l'existence de caisses alimentées par de l'argent probablement issu de la corruption. Alors, comment s'opère ce système de caisses illégales et quelles mesures l'État va-t-il la hiérarchie plutôt va-t-elle adopter pour mettre fin à ce système de caisses?
Oui, c'est pot de vin qui concernerait trois brigades, hein, trois brigades sur les 120 que compte le Sénégal. Bonjour Guillaume Thibault.
Bonjour à tous.
Correspondant permanent de RFI à Dakar, le général Moussa Fall, cité à l'instant par notre auditeur Souleymane, est commandant de la gendarmerie territoriale. Et c'est dans une note, fin novembre, qu'il a dénoncé l'existence de ces fameuses caisses illicites au sein de trois brigades. Et le général Guillaume a donné de nombreux détails.
Moussa Fall parle en effet de pratiques scandaleuses qui n'honorent pas la valeur incarnée du gendarme. Et en effet, il donne de nombreux détails dans cette note interne. À chaque fois, il décrit trois qui ont été mises en place, des caisses alimentées avec l'argent des amendes, des contraventions, et qui suivent d'une certaine façon le calendrier. Il y a ainsi la caisse journalière, dite du commandant de brigade, qui est tenue à hauteur de 10 000 francs CFA, 15 euros par jour ou plus en fonction des rentrées d'argent. Puis il décrit la caisse hebdomadaire établie à 15 000 francs CFA par jour et enfin la caisse dite spéciale du commandant de brigade avec des versements de 100 000 francs CFA une à deux fois par semaine. Voilà le système décrit, Juan, par le général Moussa Fall. Système visiblement bien rodé, organisé dans trois brigades régionales de la gendarmerie du Sénégal, celles des régions sud, centre-ouest et centre.
Alors Souleymane nous demandait quelles mesures la hiérarchie, en tout cas le général Fall, compte prendre pour mettre fin à ces caisses illégales. Dans cette note, qui était censée d'ailleurs rester au sein de la hiérarchie, pas question de la publier officiellement, dans cette note, le général annonce des sanctions et lui dirige la gendarmerie territoriale. Ce sera donc la haute hiérarchie qui annoncera d'éventuelles sanctions.
Alors le haut commandant de la gendarmerie, le général Cherser, a confirmé toutes ces informations avant-hier, mais indiqué aussi, comme vous l'avez dit, que cette note interne ne devait pas se retrouver sur la place publique. Cherser, qui est le grand chef donc de la gendarmerie, a lui aussi condamné ces pratiques. Ces actes sont des fautes graves, inacceptables, qui seront sévèrement sanctionnés. Mais il n'a, par contre, donné aucun détail supplémentaire sur les auteurs des faits, sur leur nombre ou sur les sanctions envisagées qui peuvent aller normalement jusqu'à la radiation. Pour faire stopper ces pratiques, le haut commandant de la gendarmerie a fait deux annonces. Il a proposé la création de pelotons de surveillance routière qui seraient indépendants des brigades régionales et il a surtout proposé de dématérialiser le paiement des amendes, l'idée que les contrevenants payent directement leurs contraventions au trésor public. Enfin, le général Cherser a démenti le général Fall sur un point. Dans sa note interne, le haut gradé a décrit un système généralisé sur l'ensemble du territoire. Cherser a déclaré « la corruption n'est ni organisée ni généralisée au sein de la gendarmerie sénégalaise ».
Souleymane, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, effectivement, Juan, elle a été bien prise en compte.
Par Guillaume Thibault, correspondant permanent de RFI à Dakar. L'idée que les contrevenants paient directement leurs contraventions au trésor public vous semble intéressante, Souleymane ?
Je pense que quand même c'est une idée assez intéressante parce que ça permettra quand même de faire le possible pour que l'argent aille directement dans les caisses de l'État et que véritablement les gens soient sanctionnés à chaque fois que de besoin.
Bien.
De façon objective quand même.
Merci Souleymane, de ce point de vue, bonne journée à vous. Merci de votre fidélité à Bandoulou, où il est 8h20. Il est avec nous en studio, Eric Mamrud du service des sports, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde.
Bienvenue, des questions sur la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Coup d'envoi dans quasiment 6 mois, jour pour jour.
Le 15 juin,
ouais. Nous sommes le 14 décembre, donc voilà, dans 6 mois exactement. Ça suscite des débats et surtout beaucoup de questions. Oba est à Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour Oba.
Bonjour Juan. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Merci, on vous écoute avec Eric Mamrud.
J'ai deux questions. Ma première question est, après le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, le Maroc a annoncé ne pas être candidat. Pourquoi cette décision du Maroc ?
Alors, effectivement, c'est une bonne question, Eric Mamrud. Le Maroc était souvent présenté comme le plan B idéal pour remplacer le Cameroun. L'annonce du Maroc mercredi est tout de même une énorme surprise.
Oui, oui, on s'y voyait tous déjà, on préparait nos valises, on se voyait déjà à Casablanca, Rabat ou ailleurs dans le Royaume qui avait présenté sa candidature pour la Coupe du Monde 2026. Mmh. Donc on disait c'est le fer de lance de l'Afrique, ils ont tout là-bas pour l'organiser, les stades, les routes, ils ont créé un TGV récemment. En plus, apparemment avec Hamad, le nouveau président de la CAF, ça a l'air de bien se passer, les relations sont bonnes. Alors effectivement, on sentait que le Cameroun allait peut-être ne pas être finalement, l'organisateur de cette CAN 2019, donc déjà tout le monde, depuis même cet été, eh bien, on parlait du Maroc. Mais déjà, Rachid Talbi El-Alami, qui est le ministre des Sports marocain, avait commencé à dire déjà dès le mois d'août, non, mais nous, oubliez-nous, parce que nous, on n'est pas candidats. Effectivement, cette semaine, alors que le Maroc a dit officiellement qu'il n'était pas candidat, on l'a appelé.
Oui, vous l'avez eu directement au téléphone, oui.
Voilà, pour qu'il nous détaille un petit peu tout ça, le pourquoi du comment, il a persisté, mais nous, on n'a jamais eu l'intention de candidater, et de toute manière, on ne fait pas les choses dans la précipitation. Mmh. C'est un grand tournoi à 24 équipes, il nous faut un an à un an et demi de préparation. Bon, ils nous disent ça alors qu'ils ont tout, en fait, et puis aussi à d'autres
petits arguments. Enfin, ils ont tout, et en même temps, ces arguments, on les entend. On ne s'improvise pas organisateur d'une Coupe d'Afrique des Nations, qui plus est à 24 équipes, à seulement 6 mois du coup d'envoi.
En même temps, ça s'est fait déjà par le passé, hein. En 2015, la Guinée équatoriale avait récupéré le bébé au tout dernier moment, donc ça peut se faire. C'est un peu une habitude africaine, malheureusement. Après, bon, l'autre argument avancé par Monsieur le ministre, c'est que le Maroc organise déjà les Jeux africains au mois d'août. Ils mettent
le paquet.
Voilà.
Pour reprendre l'expression du ministre.
Vous avez bien entendu
je vous écoute attentivement.
L'interview, effectivement, c'était son expression que j'allais citer. Alors, mais quand on lui pose la question quand même, mais si la CAF vraiment vous demandait expressément d'y aller, là, on sentait son embarras, même si après il a dit non, on n'ira pas. Et c'est vrai que maintenant que d'autres pays se sont portés candidats, notamment l'Afrique du Sud et l'Égypte, c'était hier, eh bien on voit mal la CAF aller rechercher le Maroc pour dire on vous veut.
Ouais, alors justement, vous tendez une perche à Oba, vous avez une autre question.
Oui, ma deuxième, j'ai appris que l'Égypte s'est portée candidate pour l'organisation du pays, du tournoi. Le pays a-t-il les moyens suffisants de sécurité et les infrastructures suffisantes
pour recevoir cette compétition, Eric Mamrud? Les infrastructures, évidemment, l'Égypte les a, non?
Oui, évidemment. Ouais. L'Égypte a déjà organisé 4 fois la Coupe d'Afrique des Nations. La dernière, c'était en 2006. Les stades, il y en a entre 8 et 10. Le réseau autoroutier a été amélioré récemment. Il y a une autoroute toute neuve entre Le Caire et Alexandrie. Ils ont tout ce qu'il faut. Alors peut-être le bémol, effectivement, c'est la sécurité.
Ouais. La sécurité, même si Alexandre Bouchanti disait ce matin sur notre antenne, Alexandre Bouchanti, notre correspondant au Caire, que le pays avait fait de grands progrès récemment en matière de sécurité.
Ça reste compliqué quand même. On rappelle le drame de Port Saïd en 2012, une émeute dans un stade lors d'un grand match qui a fait 74 morts. Et depuis, c'est très compliqué. Le championnat a été arrêté longtemps, près de 2 ans. Et quand ça a repris, les matchs de championnat se déroulaient à huis clos. Alors petit à petit, on a lâché la bride. Maintenant, il y a 5000 supporters tolérés dans les matchs de championnat. Pour les matchs internationaux, là, on ouvre un peu plus les portes. On peut aller jusqu'à 50 000 personnes, même si on laisse toujours une tribune vide au cas où. Donc c'est délicat. Mmh. Après, il y a l'aspect terrorisme qui est toujours assez compliqué, même si ça s'est un peu amélioré. Bon, l'an dernier, il y a quand même encore eu un attentat qui a fait 235 morts à la mosquée d'Al-Rouda au Sinaï. Bon, tout n'est pas parfait, mais en même temps, on n'est pas loin de cette date fatidique. La CAN, c'est dans 6 mois. Et il faut prendre une décision, il faut choisir un pays. L'Afrique du Sud est un très très bon candidat. Organiser la CAN en 2013. Donc, bon, il y a deux bons candidats.
Candidats pour l'instant, et tous les autres pays qui souhaiteraient accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à ce soir minuit pour
déposer leur dossier. Oui, même si Hamad a dit au début de semaine Olivier Pron, bon, on verra s'il y a d'autres candidats d'ici la fin de l'année, peut-être on pourra considérer. Vous savez que la CAF, Hamad l'a dit, les règlements sont ce qu'ils sont, mais on peut les refaire nous-mêmes.
On peut effectivement les contourner. Pour dire correctement les choses. Merci Eric Mamrut d'être venu répondre à Aouba et on aura l'occasion évidemment de revenir dans la libre antenne sur cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations. La dernière question du jour et du coup de la semaine nous est posée par Moujouka. Bonjour.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de Garoua au Cameroun, on vous écoute.
Oui, au Royaume-Uni, les députés conservateurs hostiles à Theresa May ont subi un échec lors du vote de défiance largement remporté par la première ministre Theresa May. Alors, je voudrais savoir quel argument Theresa May a-t-elle utilisé pour remporter 200 voix sur 300.
Allez, c'est plutôt une surprise, effectivement, hein, ce vote de mercredi. Sarah Picard, bonjour.
Bonjour.
Maître de conférence en civilisation britannique contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle. On rappelle, pour tous ceux qui n'ont pas suivi cette actualité, que ce vote, c'était un vote interne au Parti conservateur, le parti de Theresa May. Sur les 317 députés conservateurs, 200 ont renouvelé leur confiance à la Première Ministre. C'est une victoire, évidemment, pour Theresa May. Et c'est une surprise, puisque, bon, on disait, comment va-t-elle faire pour éviter une défaite ?
Oui, je ne pense pas que ce soit autant une surprise pour tout le monde, parce que dans les faits, ce sont surtout ceux qui sont contre Theresa May et contre le fait de rester dans l'Union européenne qui crient le plus fort. Donc on les entend beaucoup plus que ceux qui sont plutôt avec elle et pour en faveur de deal qu'elle a pu négocier.
Alors justement, vous parlez de deal. Quel arrangement a-t-elle pu négocier pour obtenir cette majorité tout de même ?
Alors, pour revenir à la question de l'auditeur, ce qu'elle a dit, c'est que comment on va faire autrement ? J'ai négocié avec une européenne qui a dit, voilà, on vous donne tout ce qu'on a à donner, on ne veut plus négocier. Donc, ses arguments, c'était soit on a ce deal-là, soit on sort de l'Union européenne sans deal, sans rien, donc ce sera catastrophique pour le pays, soit on reste dans l'Union européenne. Donc c'est un peu le discours de la peur en disant mais soit c'est ce deal-là, soit c'est rien parce que l'Union européenne ne veut plus donner. Et on a vu hier justement que c'est le cas.
Oui, c'est le cas, mais en même temps, on a dit qu'elle s'était adressée aux députés de son parti et qu'elle leur avait dit « Bon, laissez-moi aller jusqu'à la fin de mon mandat et je vous promets qu'en 2022, je ne me représenterai pas ». Est-ce que vous ne pensez pas que c'est cet aspect-là, cet argument-là qui a pesé ?
Oui, bien sûr, elle a promis de partir et donc ses égaux politiques qui veulent prendre sa place, ils vont pouvoir prendre sa place. Ils veulent dans les faits, mais ils laissent Theresa May faire tout le travail difficile d'ici là. Cela dit, que ce ne sera pas tout réglé en 2020, ça c'est sûr.
Ouais. En tout cas, l'opposition envisage une motion de censure contre elle, une motion qui pourrait d'ailleurs être soutenue par les frondeurs de son propre camp. Ça veut dire que les prochaines semaines s'annoncent encore tendues pour Theresa May.
C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que maintenant il faut retourner pour faire un vote parlementaire qu'elle a annulé mardi soir. Pour voir si le Parlement vote en faveur du deal qu'elle a négocié. Et on sait, enfin on croit bien que ça va être non. Et donc dans ce cas-là, comment faire ? Ben, soit elle arrive à renégocier.
Ça semble compliqué.
Absolument, et soit on sort en mars sans rien, ou soit on reste. Donc tout n'est pas réglé.
Tout n'est pas réglé.
Une période de transition.
Et les prochaines semaines s'annoncent passionnantes quoi qu'il arrive. Merci Sarah Picard d'avoir pris quelques minutes ce matin pour répondre à Moujouka. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en civilisation britannique à l'université Sorbonne Nouvelle. Restez avec nous à suivre le journal.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.